Vous écoutez SU Squatel. Bonjour tout le monde, vous êtes sur les ondes de CKIA FM 88,3, la station la plus à gauche sur la bande FM qui résiste encore et toujours. On est toujours là, en relance. Et c'est l'émission féministe et libertaire ainsi squattée que vous écoutez. Hélène Nazon derrière le micro, je suis en compagnie de mes squatteuses favorites, soit Marie Medec derrière la console.
Allô, allô.
Et Tiphaine Leclerc à côté de moi.
Salut!
Salut! J'ai eu un petit doute. Alors, aujourd'hui, on vous parle d'abord de certaines applications assez douteuses du iPhone, ainsi que de la régression de l'accès des Américaines à des moyens de contraception. C'est Tiphaine qui va nous parler de ça.
Absolument.
Et moi, de mon côté, je vais vous parler de la riposte de trois femmes qui sont des ennemies de l'État, selon le gouvernement Harper, donc leur riposte, enfin les portraits tant annoncés qui arrivent aujourd'hui en direct de Varadero, dont je reviens, un peu traumatisée par les formules tout inclus, mais c'est pas le sujet ce soir. Et je vais vous parler également de la 9e journée internationale de lutte à la violence faite aux travailleuses du sexe. Tout ça agrémenté de musique, il neige sur le Nuevo Saint-Roch, on est super de bonne humeur et on commence la musique, Marie?
Oui, alors je vais mettre une musique de Bookman Experience, un groupe haïtien qui essaie de revitaliser la culture et la religion vaudou haïtienne. Donc on écoute une chanson qui s'appelle « Musique à manger ».
Thank you.
Vous êtes sur les ondes de CKIA FM 88,3 et on commence notre petit bloc de nouvelles, histoire de vous craquer un peu et de, c'est ça, de se révolter encore et toujours contre la technologie qui, ma foi, reflète souvent l'idéologie conservatrice qu'on cherche en tant que féministe à démolir, tout comme l'État.
C'est pas une nouvelle, mais ça date du début décembre. En fait, vous l'avez peut-être vu passer parce que ça a circulé sur Facebook. En fait, c'était par il y a des femmes qui se sont rendues compte aux États-Unis que l'assistant vocal pour le iPhone 4 qui s'appelle Siri était vraiment pas tant au fait des besoins que les femmes ont pour prendre soin de leur santé en général, mais il y a des exemples particuliers qui font vraiment peur. Donc, Siri, c'est une espèce d'application. On le sait, il y a plein d'applications problématiques, mais il y a tellement de apps sur le App Store, si je ne me trompe pas, qu'on peut pas relever toutes les applications sexistes ou racistes qui existent. Il y en a plein. Par contre, Siri, c'est un produit qui a été développé par iPhone et qui vise à aider les personnes qui ont leur iPhone à trouver des ressources, des services à proximité.
Rapidement.
Oui. Et donc, le programme est vraiment capable de trouver plein de choses. Entre autres, par exemple, on peut facilement trouver du Viagra si on demande à Siri « Où puis-je trouver du Viagra? » Et puis, elle va nous diriger vers les pharmacies les plus proches.
Tourne à gauche, tourne à droite.
C'est cela, okay. Je crois. Je n'ai pas essayé, mais en gros, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. L'auteur qui écrit l'article dont je vous parle sur colorlines.com, qui est un excellent site, nous annonce aussi qu'on peut facilement trouver un service d'escorte grâce à Siri. Donc, il n'y a pas de problème. On peut avoir accès à plein de patentes. Par contre, si on lui demande comment trouver un mammogramme, tout ce qu'on va recevoir comme information, c'est la définition d'un mammogramme, c'est-à-dire un rayon X pour les tissus mous du sein. Semblerait-il. C'est ça la définition. Et puis, mais par contre, aucune information sur comment on fait pour trouver un mammogramme à proximité ou encore si on veut avoir la pilule du lendemain. Un sujet qui est chaud ces jours-ci aux États-Unis, on en reparlera tout à l'heure. On n'y arrive pas non plus. En fait...
Dans la rangée en dessous du Viagra.
Oui, c'est ça. Donc, on n'arrive pas à retrouver des pilules du lendemain. Puis encore pire, si on demande à... Tu sais, si on annonce à Siri qu'on a été violée, Siri ne comprend pas. Alors que c'est un programme qui est vendu comme permettant de lui parler normalement et puis que Siri va comprendre et nous aider. Mais là, si quelqu'un dit « j'ai été violée », Siri ne réagit pas. Et puis, si on change un petit peu la formulation, là, en anglais, entre « I was raped » et « I've been raped », cette fois-ci, elle trouve, certaines fois, elle va sur Google pour trouver des ressources pour les abus sexuels, mais elle ne trouve absolument pas, elle ne nous dirige pas ni vers un hôpital, ni vers la police ou quoi que ce soit, alors qu'on s'entend que ça devrait être assez évident là, qu'il faut trouver des ressources rapidement. C'est particulièrement dans ce genre de moment-là. On espère que la technologie puisse nous soutenir un peu.
Est-ce que cette technologie-là, elle comprend quand on dit « j'ai violé » Ça n'a pas été essayé?
Non, ben moi, j'avais pas accès à un iPhone pour faire des tests. Là, puis il y a, semble-t-il, une version francophone. Mais les articles que j'ai lus, en plus, étaient en anglais. Donc, je sais pas.
J'ai violé, elle va te dire. Cache-toi. Change de jeu.
Non, mais ben, ça, entre autres, il semblerait que quand on... Par contre, ce qui a été essayé... C'est que je me trompe pas de formulation exacte. C'est qu'on peut lui demander comment dissimuler un corps, hein. Puis que ça, elle va trouver des idées. Mais on peut pas lui demander quoi faire quand on se fait attaquer physiquement ou sexuellement. Donc c'est ça. Puis même quand elle fait des recherches sur Google pour trouver des ressources pour contrer les abus sexuels, l'auteur dit que même si elle savait pertinemment qu'à 2000, donc à moins de 4 km de sa maison, il y avait un centre d'action contre le viol, que c'est pas une ressource qui est ressortie, que Siri a pu trouver. Ensuite, elle trouve rien quand on lui demande tout simplement de la contraception. Et puis, tout ce qui répond, c'est « je ne trouve pas de clinique de contraception », comme si l'endroit pour trouver des méthodes de contraception, c'était la clinique de contraception. Alors que, encore là, si, comme elle est censée le faire en se référant à Google, quand elle trouve pas de ressources à proximité, quand on tape « clinique de contraception » sur Google, aux États-Unis, on est référé, le premier site qui sort, c'est Planned Parenthood, qui est en effet une ressource adéquate pour se procurer des moyens de contraception. Donc, c'est assez problématique. On se rend compte que, alors que Google arrive facilement à trouver ces ressources-là, généralement, quand on les cherche, le programme ou la capsule ou je ne sais pas trop comment ça s'appelle, parce que ceci n'est pas une chronique technologique,
n'arrive
absolument pas à trouver les ressources. Et on s'entend, c'est pas parce que les ressources n'existent pas, bien que à bien des égards, il pourrait y en avoir plus. Puis en plus, elle va même pas faire le plan B, qui est d'aller rechercher sur Google ce qu'elle fait quand c'est d'autres questions qui lui sont posées.
Elle dit « Je ne comprends pas ce que vous venez de dire ».
Voilà. Donc, on se retrouve peut-être dans des moments charmants comme dans les lignes téléphoniques où on fait « Répétez, je ne comprends pas
». Je voilà. n'ai pas compris votre réponse.
Alors, sur la petite capsule, la technologie, des fois, c'est pas cool. C'était tout. Et puis, on reparlera de la pilule du lendemain après.
Après la chanson, Mary.
Oui, on va écouter une chanson en hommage à Cesaria Evora, qui est décédée samedi dernier à l'âge de 70 ans. C'était une chanteuse capverdienne, vraiment l'égérie du Cap-Vert, là, parce que quand on parle de ce pays-là, c'est la première personne qui vient à l'esprit. Puis, elle a commencé sa carrière à 50 ans. C'est quand même intéressant. Je lisais un article sur elle l'autre jour. Puis là, on va écouter Mae Velia, donc qui veut dire vieille mère, je pense, la traduction. Bonne écoute et bon voyage à cette grande dame.
Respect.
Cozegas flor para flor. Minha vida é flor, boca mês bebê. Olha, mamãe, cozegas flor para flor. Minha vida é flor, boca mês bebê. Flá pa flá, mó mamãe, minha coração ti tá chorar, cheio de dor. Cosé com ta fazer, que essa afronta, onde com ti tá vai, que essa tristeza. Cosé que flá pa flá, mó mamãe, minha coração ti tá chorar, cheio de dor. Cosé com ta fazer, que essa afronta. Onde contita vai que tristeza? Boca mexe bem, boca mexe bem, boca mexe bem. Olha, mamãe, você que esfla pra flã. Boca mexe bem. Olha, mamãe, você que é flop a flã. Minha vida é flã. Boca mexe bem. Você que é flop a flã, oh, mamãe. Minha coração te tá chorando, cheio de dor. Cosé com ta fazer que essa afronta, onde com ti tá vai que tristeza. Cosé que esfla pa flá, mó mamãe, minha coração ti tá chorando, cheio de dor. Cosé com ta fazer que essa afronta, onde com ti tá vai que tristeza. bien. Porque me esté bien. Porque me esté bien.
Vous êtes de retour à Ainsi soit-elle, hommage à cette grande dame donc qui nous a quittés, mais dont la musique restera à jamais gravée dans nos cœurs. Alors, Tiffaine, on continue toujours avec la régression de l'accès des Américaines à des moyens de contraception. Et on a vu que c'est sûrement pas le iPhone qui va servir dans la lutte pour retrouver ces droits-là.
Non, c'est ça. Non seulement le iPhone nous indique pas comment trouver des sources de contraception adéquates, mais en plus, il nous aide pas à trouver la pilule du lendemain quand le besoin s'en fait sentir. Et là, les jeunes femmes aux États-Unis vont avoir encore plus de difficultés. En fait, auront pas plus de difficultés, mais vont continuer à avoir de la difficulté à avoir accès au produit qui s'appelle Plan B One Step, qui est la pilule, qui est communément connue sous le nom de pilule du lendemain, et qui permet, si ce médicament-là est pris dans les 72 heures après un problème de contraception qui a mal fonctionné ou qui était absente, qui permet d'éviter une grossesse dans 90 % des cas. Donc, je ferai pas l'explication de pourquoi c'est important d'avoir accès à cette ressource-là. Par contre, ce qui se passe, c'est que depuis 2007, le produit Plan B est disponible sans prescription pour les femmes au-dessus de 17 ans aux États-Unis. Et par contre, il était toujours pas disponible pour les femmes de moins de 17 ans. Et puis, mais il était disponible sous prescription. Et puis là, la Food and Drug Administration, FDA, avait enlevé les dernières restrictions parce que c'est un produit qui avait été testé comme étant correct et sécuritaire pour les filles de moins de 17 ans. Et puis, c'est un produit qui coûte quand même 50 à 70 $ qui est disponible dans les pharmacies, là. Donc, c'est les critiques qui disent que ça devient facilement une méthode de contraception à part entière sont assez peu crédibles dans la mesure où c'est quand même un produit qui est assez coûteux. Mm-hmm. Et puis ça particulièrement pour les ressources financières que les femmes de disons 11 à 17 ans ont là. Donc c'est pas et puis là donc la grosse nouvelle qui pose problème ici, c'est que la secrétaire à la santé Kathleen Sebelius a pris une décision qui est supportée par le président Obama de ne pas rendre cette pilule disponible pour les femmes de moins de 17 ans à moins d'avoir une prescription d'un médecin. Donc on comprend que c'est vraiment problématique à plusieurs égards. Le Washington Post, dans son équipe éditoriale, s'est clairement positionné contre cette nouvelle décision-là en expliquant que même si on peut comprendre la réaction émotive, dirons-nous, d'Obama, puisque lui-même a deux jeunes adolescentes appelons-les des twins, à la maison, c'est pas nécessairement la bonne décision qui a été prise. En effet, comme c'est un produit qui a vraiment un laps de temps assez court dans lequel il doit être pris, de 72 heures. Donc, 3 jours, c'est difficile pour tout le monde d'avoir un rendez-vous chez le médecin et de se faire prescrire un médicament et d'y avoir accès en 3 jours. Et c'est particulièrement problématique. Les personnes qui commentent au Washington Post disent oui, on comprend que ça peut être discutable. Ce qui a été amené comme argument par la secrétaire à la santé, c'est des filles de 10 ou 11 ans ont pas les capacités pour prendre ces décisions-là. Elles doivent être supportées par leurs parents ou par leurs médecins. Toutefois, c'est seulement environ 1% des jeunes filles aux États-Unis qui ont des relations sexuelles, qui ont une vie sexuelle active à l'âge de 11 ans. Par contre, à 17 ans, on est rendu à près de 50%. Donc, c'est vraiment plus alors que l'adolescence passe que le besoin risque de se faire sentir. Donc, c'est un petit peu anecdotique de dire qu'à 10 ou 11 ans, on est trop jeune. En effet, on pourrait se poser la question, peut-être qu'on est trop jeune, peut-être qu'on l'est pas, mais les chances qu'une fille de 10 ou 11 ans se retrouve dans cette situation-là et ait les moyens pour acheter la pilule du lendemain sans parler à ses parents sont tout de même assez minimes. Toujours sur le site Color Lines dont je vous parlais tout à l'heure, il y a quatre il y a une auteure qui s'appelle Akiba Solomon qui nous parle des quatre façons dont cette décision d'Obama pose problème particulièrement aux jeunes femmes noires et aux jeunes femmes de couleur, là, women of color. On a toujours bien de la misère
à traduire ça. Traduire
ouais.
On s'entend.
Donc, premièrement, c'est ces femmes-là qui ont plus de chances que les femmes blanches de tomber enceintes sans l'avoir planifié. Ça, c'est un problème qui arrive à cause de beaucoup d'autres facteurs dont je discuterai pas si longuement aujourd'hui, mais les femmes noires sont presque trois fois plus à risque de tomber enceinte sans l'avoir planifié à l'adolescence. Ensuite, c'est vraiment problématique pour les femmes qui sont sans papier et en général pour les femmes de couleur avec des guillemets autour du terme parce qu'en effet, même si une personne a plus de 17 ans et devrait avoir accès à ce contraceptif-là sans prescription, à partir du moment où on dit en dessous de 17 ans, on n'a pas le droit, ben on risque de voir les pharmaciens et pharmaciennes demander des pièces d'identité aux femmes qui viennent chercher plan B. Et puis, donc, ça pose problème aux femmes qui sont sans papier, qui pourraient avoir besoin de cette ressource-là. Ça pose aussi problème à des femmes qui pourraient avoir des papiers, mais qui n'en ont pas pour différentes raisons, parce qu'on connaît les problèmes qui peuvent se poser pour avoir accès à des preuves d'identité, là, entre autres quand on n'a pas de permis de conduire, quand on n'a rien qui ressemble même un peu à la carte d'assurance maladie, quand on n'a certainement pas de passeport en tant que jeune femme qui n'a pas nécessairement les moyens ou quoi que ce soit. Donc, ça pose problème non seulement aux femmes de moins de 17 ans qui vont avoir un accès limité à cette ressource-là, mais aussi aux femmes de plus de 17 ans qui n'auraient pas de façon de s'identifier. Puis d'ailleurs, on ne sait pas si, par exemple, une pièce d'identité d'une école va être accessible ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment un obstacle qui est mis pour les femmes de tous les âges, particulièrement les jeunes femmes et particulièrement les jeunes femmes qui ne sont pas blanches. Ensuite, on note que la majorité des cas de grossesse non désirée à l'adolescence, ça sont issus de relations sexuelles entre une jeune femme et un homme plus vieux. Donc, en enlevant c'est sûr que la pilule plan B, ça permet pas de prévenir les relations sexuelles qui sont potentiellement des relations d'exploitation, mais ça permet au moins d'améliorer la situation quand viennent les conséquences d'une relation sexuelle non protégée ou mal protégée. Et puis, aussi, ben, le truc le plus basique, c'est avoir moins accès à la pilule du lendemain. Ça veut dire qu'il va avoir plus besoin d'avortement. Puis comme on le sait, aux États-Unis ainsi qu'au Canada, l'avortement est de moins en moins accessible. C'est de plus en plus difficile d'y avoir accès, puis particulièrement pour les jeunes femmes. Donc, on arrive vraiment à une situation qui est problématique alors que c'est un produit qui a été montré comme étant absolument sécuritaire pour les jeunes femmes. Puis, comme je vous le disais, le prix de ce produit-là fait que on peut mal imaginer que des jeunes adolescentes y auraient accès de façon vraiment abusive. Puis il y a plusieurs personnes qui ont remarqué que quand on dit l'idéal, ça serait que les jeunes filles se tournent vers un parent. Mm-hmm. Ouais. Non, ben qui disait qu'il faudrait que les jeunes filles se tournent vers un parent ou un médecin avant d'avoir accès à ça, parce que c'est important si elles ont eu des relations sexuelles non protégées, qu'elles aient accès à des ressources, qu'elles puissent avoir accès à de l'information, tout ça. C'est vrai que dans un monde idéal, c'est mieux d'avoir accès à un médecin, mais quand même, on peut pas prendre pour acquis que, je veux dire, même à Québec, qui est peut-être où la situation est peut-être plus facile que dans plusieurs États des États-Unis, c'est difficile d'avoir accès à un médecin, c'est difficile d'avoir accès à un médecin rapidement, puis c'est difficile de parler à son médecin de situations comme ça. C'est pas vrai qu'on peut nécessairement prendre pour acquis que la personne qui nous traite va être à l'écoute de nos besoins puis comprendre.
Qu'elle va pas juger.
Ouais, vraiment pas. Puis les jeunes filles, j'imagine pas non plus qu'elles vont parler à leurs parents de ça, là. Je veux dire, c'est pas... adopter. C'est souvent des amis ou des sœurs ou des, mais en tout cas rarement les parents. Puis en tout cas.
Mm-hmm. Donc c'est ça les arguments qui sont amenés pour expliquer le refus de permettre la vente de plan B aux femmes de moins de 17 ans sans prescription sont vraiment un peu des arguments bidons. Puis je pense qu'on peut vraiment conclure que c'est un recul. C'est pas un recul parce que jusqu'à maintenant c'était pas encore possible non plus, mais alors qu'on arrive à un moment où on dit clairement c'est une ressource qui est sécuritaire pour les jeunes femmes, puis qu'on ne permette pas de le vendre en vente libre, ça va causer bien des problèmes à beaucoup de femmes aux États-Unis.
Non, c'est clair. Moi, ça me fait réagir sur deux points. Ce que tu dis, premièrement, par rapport à l'argument selon lequel ça deviendrait, c'est la crainte que ça devienne un moyen de contraception. Ah, les filles feront plus attention. On commencerait même pas à s'étendre sur la responsabilité qui est encore une fois pas du tout partagée parce que après l'acte, nécessairement, c'est les femmes, c'est ton corps, donc c'est à elles à s'en occuper. Mais on parlait, un, du prix. Mais il y a aussi les conséquences pour quiconque a déjà pris la pilule du lendemain. C'est vraiment pas une partie de plaisir, là. C'est les nausées, c'est les maux de tête. Je veux dire, tu vas pas commencer à prendre ça une fois par semaine, là. Il y a personne qui va avoir envie de faire ça.
Et pourtant, un des arguments qui est amené, c'est qu'il y a des effets secondaires possibles qui sont difficiles. Alors qu'il y a plein de, malgré le fait que c'est des effets secondaires qui sont fort désagréables et, mais donc, c'est premièrement une façon de dire que probablement que les gens n'en abusent pas tant que ça parce que c'est pas une partie plaisir. Mais en plus, on se rend compte, c'est des effets secondaires qui sont utilisés pour justifier le fait que ça sera pas disponible. Donc, c'est un petit peu paradoxal argument.
Puis surtout que le deuxième point que je voulais amener, c'est, tu l'as très bien démontré, si on n'a pas accès à la pilule du lendemain, ben ça veut dire donc plus d'avortements nécessairement, parce que si tu n'as pas accès, ça ne veut pas dire pour autant que tu vas vouloir assumer la grossesse, ce qui est tout à fait correct. Mais si on n'a pas accès à l'avortement, un avortement sécuritaire, ben ça ne veut pas dire que les femmes ne se font pas avorter. Ça veut dire une recrudescence des avortements clandestins. Puis ça, ben on sait où ça mène au niveau de la sécurité puis de la santé des femmes. Encore aujourd'hui, à chaque année, il y a plein de femmes dans plein de pays qui vont décéder des suites d'un avortement. Pis c'est pour ça que soit dans les manifestations, on va présenter le cintre comme symbole pour dire « we're not going back to that ». Tu sais, on retourne pas là, on a fait des avancées à ce niveau-là. Ça me faisait réagir comme ça. Avais-tu d'autres choses à ajouter, Tiffaine?
Non, ça va.
D'accord, donc on continue. On va en musique.
Oui, on va écouter Morkeba, la chanson s'appelle « Friction ».
Is your death? Something is stirring way underneath as people ignite the last burning. Friction.
mama wala setul ndax na saran tutel nako ay yo fal ko waxtan bu gën leen tanena
toujours sur les ondes de CKIA FM à l'émission Ainsi squat-elle et on vient d'entendre Julia Fénéré Sarr et la chanson s'appelait Namana, une chanteuse sénégalaise dont j'ai découvert une chanson sur l'album puisque tout le reste j'aimais pas trop mais celle-là j'aimais bien.
C'est bon, mais en tout cas on a bien aimé nous aussi et ça nous amène à ma chronique, la riposte de trois femmes, trois ennemies de l'État, gouvernement Harper, en fait, et qui nous amène à nous poser la question, existe-t-il une blacklist à Ottawa, en fait? Et comme vous allez le voir, ben, on dirait bien que oui. De nombreux cas nous portent à le croire, on le sait, on l'a vu depuis que ce gouvernement-là est au pouvoir, que ce soit de manière minoritaire ou majoritaire, entre autres, pensons au retrait des subventions à de nombreux groupes de femmes, ça avait quand même défrayé les manchettes l'année dernière. Mais là, dans cette chronique-ci, je vais vous parler du cas plus particulier carrément de personnes, donc d'individus. Il s'agit de Frank James, une artiste et militante écologiste de Toronto, de Cindy Blackstock, une militante et avocate qui lutte pour la défense des enfants autochtones, et de Michaela Kersling, qui est la veuve d'un ouvrier dont on a entendu parler peut-être plus récemment, peut-être que ça vous dit plus quelque chose. Elle milite contre l'exportation de l'amiante canadienne. Donc, on va commencer avec la première. Frank James, donc, c'est une artiste de Toronto qui a décidé de se battre pour dénoncer les manœuvres d'intimidation du gouvernement Harper. Parce que, dans le fond, elle, ce qu'elle dit, c'est si on se laisse intimider puis que ça c'est pas su publiquement, ben là, tranquillement, c'est vraiment l'espèce de pente, là, où toutes ces manœuvres-là ou ces espèces de techniques-là d'intimidation pour faire taire les opposants et les opposantes, finalement, vont devenir un peu dans... des lieux communs. Exactement,
en fait.
Vont être banalisés, ça va être des lieux communs. Donc, au contraire, il faut faire du bruit. Et c'est ça qu'elle a décidé de faire. Est-ce qu'il est arrivé, en fait, c'est comme je vous disais, c'est une militante écologiste qui a fait savoir de différentes manières, par son art, mais également par le biais d'entrevues, de conférences, son opposition, en fait, son dégoût du gouvernement Harper et qui a dénoncé l'inaction du gouvernement dans le cas du dossier des changements climatiques. C'est d'ailleurs particulièrement à l'heure du jour en ce moment. Avec le retrait Kyoto et même avec Justin Trudeau en Robin des Bois qui a pris la défense d'une députée du NPD en accusant le ministre de l'Environnement, Peter Kent, si je me trompe pas, en lui disant finalement qu'il était full of shit. Hein? C'était presque beau. Moi, je pense que Pet, pour le nommer ainsi, Pierre Elliott devait être bien fier de son fils dans sa tombe. En tout cas, tout ça pour dire que cet artiste-là, finalement, l'État lui a retiré une subvention qu'il s'était vu attribuer au départ pour effectuer une tournée européenne dans une vingtaine de villes.
Retirer une subvention?
Oui, elle s'est fait carrément retirer une subvention. Mmh. Qu'est-ce qu'elle s'était vu attribuer? Pour faire une tournée éducative pour présenter justement son art dans différentes villes en Europe. Puis, donc, c'est ça qu'elle a dénoncé. Elle s'est servie, entre autres, de la loi sur l'accès à l'information pour obtenir des preuves que finalement, c'était pas juste dans sa tête, parce qu'évidemment, ils ont dit qu'elle capotait, qu'elle hallucinait, puis que dans le fond, si elle s'est fait retirer cette subvention-là, ben c'est tout simplement parce que, madame, on est en période de restriction budgétaire, ça n'a absolument rien à voir avec vos opinions politiques.
Le prenez pas personnel, surtout.
Exactement. Et elle, donc, c'est ça. D'abord, ce qu'elle a fait, elle a dénoncé cette situation-là dans les médias. Elle a aussi recueilli des fonds pour afficher son travail dit interdit sur les abribus à l'ombre de la colline du Parlement. Donc ça, c'est assez original, puis c'est quand même intéressant. D'ailleurs, la fin de semaine dernière, elle a fait l'objet d'un blog du New York Times sur l'environnement, puis c'est intitulé « L'approche du Canada à l'égard de l'art qui dérange ». Donc ça aussi, c'est intéressant. Donc on sait que ça, les conservateurs, ou en fait tout gouvernement est toujours frileux de son image. Donc ça aussi, ça risque de faire bouger les choses. Puis c'est intéressant parce que lorsque le journaliste du Star, là, je vous parle entre autres d'un article donc de Tim Harper, qui est journaliste au Star, donc c'est de ça dont je vous parle, il dit que lorsque lui a posé la question à savoir comment ça se fait, elle, qu'elle s'est fait retirer sa subvention, ben il y en a un qui a été un petit peu moins menteur dans les fonctionnaires à qui il s'adressait, puis qui a dit « Mais ne savez-vous pas que cette dame parle contre le gouvernement canadien? » Donc, tu sais, c'était vraiment clair comme l'eau de roche. C'est intéressant dans l'article que je disais, parce que Tim Harper, comme je vous disais, je vais vous parler de trois femmes, on vient de parler de la première, il disait « C'est la troisième personne qu'il contacte, lui, pour dénoncer ce type d'intimidation. » C'est-à-dire qu'il avait fait déjà deux autres articles qui étaient consacrés donc à Cindy Blackstock et à Michaela Kerseling. Et il fait dans son article, c'est intéressant, il réfère à l'adage qui dit « Quand on dit « two is a coincidence », dans le fond, deux fois c'est une coïncidence, but three is a pattern. » Donc, tu sais, comme pour vraiment dire que c'est une question structurelle ici qui se passe, puis que c'est pas des cas individuels, supposons, on y aimait vraiment pas la face à cette militante hippie écologiste-là. C'est pas ça dont on parle. On parle vraiment de structurellement au gouvernement d'une manière de faire taire les opposants de toutes les manières possibles et imaginables, puis de rendre ça légal en plus. Donc, c'est évident que ce dont on est en train de vous parler, c'est rien de nouveau, mais c'est important, justement, même si on commence à s'habituer. Tout à l'heure, Marie, c'est important, le mot que tu as utilisé, banaliser. Oui, on commence à s'habituer, nécessairement, mais ça témoigne du climat de terreur qui est instauré par les conservateurs, qui considèrent toute critique comme une menace, toute personne critique comme étant carrément un ennemi ou une ennemie de l'État. Puis c'est justement important de continuer à dénoncer ça pour pas tomber dans la banalisation puis pas s'y habituer parce que c'est inacceptable. Puis un autre point important à souligner, c'est qu'étrangement, les trois personnes dont on vous parle, ben une artiste, une défenseure des Autochtones, une veuve, les trois femmes qui ont riposté, ben c'est toutes les trois sont des femmes également. Donc ici, le pattern, il est assez clair, il est assez évident. La deuxième personne dont je vais vous parler, c'est Cindy Blackstock, qui, elle, est une avocate, défenseresse des enfants autochtones. Elle a porté plainte contre le gouvernement conservateur en matière des droits des enfants autochtones dans les réserves. Donc, c'est la question du sous-financement. Puis, dans les faits, dans le fond, ce qu'elle a fait par le biais de cette plainte-là, c'est accuser le gouvernement de discrimination raciale, tout simplement. Et elle a eu accès à des fichiers du gouvernement qui prouvent que le gouvernement la considère comme une ennemie d'État puisqu'il l'espionne, ils la font suivre. Des exemples, il y a sur 100 conférences où elle a pris la parole, il y a des officiers fédéraux qui ont assisté à 75 de ces 100 conférences-là, puis ensuite, c'est des résumés qui sont envoyés, évidemment, à leurs supérieurs.
Des enregistrements.
Exactement. Il y a un fonctionnaire qui a été assigné à temps plein à la surveillance de sa page Facebook et qui mettait des commentaires, etc. Donc, ça aussi, elle a eu accès à ça par le biais l'accès à l'information. Donc ça, c'est pour elle. La dernière dont je vais vous parler, c'est Michaela Kerseling. Donc, elle, son mari est mort d'un cancer dû à l'amiante il y a 2 ans. Puis, évidemment, elle, sa manière un peu de réagir à ça, c'est elle a fait une campagne, en fait, très originale. Elle a utilisé le logo du Parti conservateur dans sa campagne, donc, pour arrêter les exportations d'amiante canadien. Évidemment, ça, ça avait fait des manchettes aussi. C'est assez récent. Le gouvernement l'a carrément menacé de poursuites judiciaires si elle continuait à faire ça. Puis, c'est intéressant parce que cette femme-là, ce qu'elle a décidé, elle aurait pu, on s'entend, là, le gouvernement menace de poursuivre en cours s'il y a plusieurs personnes qui
bon, se seraient calmées.
Exactement, mais elle est sortie publiquement pour dénoncer, ils veulent me faire taire, montrant à la caméra les papiers qu'elle avait reçus. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Puis ces trois femmes-là, en cette fin d'année un petit peu froide, je trouvais que c'était intéressant d'en parler, puis de voir justement que la riposte est possible. Puis c'est entre autres qu'une des femmes, James, disait en entrevue, elle disait, moi je pense que les conservateurs ont sous-estimé le pouvoir des femmes, puis que oui, la liste noire, oui, il y a une blacklist à Ottawa, puis c'est blacklist-là, elle continue à s'augmenter. Il y a des noms qui s'ajoutent sur cette blacklist-là tous les jours. Puis il faut vraiment dénoncer ça bruyamment parce que là, c'est la seule manière de se faire entendre, que les gens réagissent un peu puis sachent qu'est-ce qui se passe. Puis le glissement au niveau démocratique, on sait, c'est pas juste à ce niveau-là. Il faut continuer à se faire entendre. Puis je trouvais vraiment que c'était trois femmes inspirantes. Je veux dire, t'as quand même toi face à l'État, là. Souvent, il y a plusieurs films hein, où on voit, je sais pas, Will Smith, ennemi de l'État, qui gagne à la fin dans des pétarades, mais là, c'est comme la vraie vie, puis c'est quand même l'intimidation qu'elles ont su, puis c'est trois cas différents, puis qui mettent en lumière, finalement, trois dossiers, la question de l'écologie, la question de la situation des conditions de vie des Autochtones, puis ici, la question, justement, liée à la santé, donc par rapport à l'amiante. Donc, tous des dossiers très importants, puis qui mettent en lumière, justement, je trouvais que le journaliste expliquait très bien, c'est pas une coïncidence, c'est un pattern, c'est vraiment instauré structurellement, puis il faut se battre contre ça, c'est certain. Donc, hommage à ces trois femmes, certainement, Stéphane.
Et pour lire l'article qui présente ces trois personnes-là, on va où?
On va, en fait, sur la page Facebook d'Hélène Nazon. Non, c'est pas vrai. C'est l'article du Star. Donc, le journaliste s'appelle Tim Harper. Vous pouvez aller carrément, je pense. Oui, c'est drôle. J'étais trop emportée. J'ai oublié de vous faire le clin d'œil. Quand j'ai tapé, je trouvais ça comique. Il s'appelle Tim Harper. Donc, il est journaliste au Star. Et lui, il a carrément sa colonne. Puis, c'est intéressant parce que là, moi, l'article dont je vous parlais faisait un topo de ces trois femmes-là. Mais, comme lui-même le mentionnait, il disait, ces trois femmes-là, il en a parlé dans un article différent chaque fois. Donc, entre autres, pour l'avocate Cindy Blackstock, c'est vraiment intéressant. Au début de l'article, ça dit pourquoi elle est l'ennemie de l'État. Puis là, il explique justement, ben en fait, c'est tout simplement parce qu'elle défend les droits des Autochtones, etc. Donc, tapez de Star dans Google. Hein, on n'arrête pas de faire la promotion de Google. Puis, cliquez sur le nom de le journaliste Tim Harper, et vous allez tomber sur cet excellent article. Puis j'ai pas eu le temps de faire une grande recherche pour en parler plus longuement, mais je m'en voudrais en faisant un portrait des femmes qui ripostent, hein, The Woman Fight Back Harper, de pas quand même mentionner Thérèse Pence, la chef d'Attawapiskat, qui a décidé de poursuivre le gouvernement pour contester la mise en tutelle. On se rappelle que la communauté avait déclaré l'état d'urgence et la réaction le lendemain du gouvernement, ça a été la mise en tutelle de cette communauté-là. Donc, je vais vous revenir peut-être là-dessus la semaine prochaine, sûrement en fait, je m'y engage. Mais il y a vraiment un cas intéressant où elle, sa réaction, c'est pas de dire « Ah oui, on mérite d'être mis en tutelle » ou « Ah oui, on est vraiment des... » Elle, au contraire, « Hein, excuse-moi, c'est parce qu'on va te poursuivre. Ah, » Donc, on va revenir là-dessus certainement, mais dans les femmes à retenir pour cette année, Thérèse Pence, certainement une battante également.
Puis en 2012, je pense qu'on aura maintes fois l'occasion de parler des luttes des différents groupes autochtones partout au pays. Il y a vraiment une résistance qui s'organise parce que le gouvernement n'arrête pas de prendre des décisions absolument désastreuses. Là, on apprend aujourd'hui en fin de semaine, que Ottawa prévoit réduire le financement des logements dans les réserves, alors que, comme on le sait, il y a une crise du logement majeure. Il y en a une en général dans différentes régions du Canada, mais tout particulièrement dans les communautés autochtones. Puis au Québec, il y a le plan Nord. Donc, c'est vraiment un dossier à suivre dont on reparlera certainement en 2012.
On n'aura pas le choix.
Merci beaucoup pour cette chronique, Hélène. On va écouter Kazé. J'avais envie de réentendre un peu cette rappeuse française d'origine martiniquaise qui nous fait une chanson pas à vendre. Alors, si vous croyez que c'est un homme qui chante, détrompez-vous. Et justement, c'est ce qu'elle revendique aussi dans la chanson. Donc, bonne écoute.
Chaque fois j'affronte, ou dois tenir tête et souvent à coups de pompe. Ceux qui me jugent et très souvent se trompent ou me guettent l'air de dire tu devrais avoir honte. Fusille des yeux la façon dont je m'habille, me demande si je suis un garçon ou une fille. Veulent dans les détails mon poids, ma taille et le mode d'emploi de mon plan de bataille. Quelle importance, mes séquelles, fais ta route, ce que tu penses n'influence pas ma manière d'être. Et tous les mécontents peuvent aller se faire foutre, car je ne rendais compte qu'à celle qui m'a vu naître. Je ne suis pas cette bête de foire que l'on dompte, ou bien même à qui l'on monte sur la tête. Et cette vie propre et nette de michetons aux petites minettes, je n'en veux pas, laisse-moi sur ma planète. Mon mode de vie n'est pas à vendre, mon rap n'est pas à vendre. Ce que je pense ou dis n'est pas à vendre.
Si tu crois que ça va changer,
tu peux attendre. Mon mode de vie n'est pas à vendre, mon rap n'est pas à vendre. Ce que je pense ou dis n'est pas à vendre.
Si tu crois que ça va changer,
tu peux attendre. Je me rappelle encore cette époque, RERB bondé, je sortais de mon bloc. Marcher avec dans les oreilles du peura ou du rock. Danser dans le couloir, gare du nord où tu suffoques. Correspondance, belles adresses et coins classe. Moi mon sac à dos, mes locks, mes adidas. A l'évidence ma seule présence c'est de l'audace. Parmi ces petits cons friqués et grandes blondasses. Puis j'arrive enfin dans ce label pour lequel j'ai mis un couplet sur une compile. Tu sais, en général si ces connards m'appellent, c'est qu'ils n'ont eu personne d'autre au bout du fil. Bref, je signe leur 2-3 paperasses et me casse. Avec dans la poche le montant de ma séance, ne monte pas de film, y'a pas de quoi quitter la crasse. Juste rincer mes potes d'enfage dans une ambiance. Et en sortant, devine qui je croise. Le dernier rappeur à la mode qui me toise. Tout naze, ce guignol qui tape des poses avec sa gueule et son blaze sur un t-shirt rose. Et cette espèce de macaque qui calque les caries, flambe et fait le coq. Il se vante d'avoir signé ici pour plusieurs plaques et me dit que son disque cette année dans les bacs sera le choc. Mais un album pourri plus tard, un soir je revois l'ex future star dans un bar. Il veut boire, me gratte comme un clébard, me dit que chez la major son contrat d'or dans un tiroir. Et maintenant il est en loc, il n'a plus d'oseille et ça me fait en cloque. Il me dit qu'on devrait aller brûler son label et Skyrock. Fous-moi le camp qui t'avait dit d'aller baisser ton froc. Mon mode de vie n'est pas à vendre, mon rap n'est pas à vendre. Ce que je pense ou dis n'est pas à vendre.
Si tu crois que ça va changer,
tu peux attendre. Mon mode de vie n'est pas à vendre, mon rap n'est pas à vendre. Ce que je pense ou dis n'est pas à vendre.
Si tu crois que ça va changer,
tu peux attendre. Quoi? Moi? M'assagir? Obéir aux lois de l'argent sans réagir? Produire du son pour pisseuses et ménagères? Apparemment tu ignores à qui tu as affaire. Or et saphir ne pourront pas suffire à racheter tout ce que j'ai souffert. Et je préfère fuir le confort et kiffer mon atmosphère plutôt que de me laisser passer les fers. Ok? Mon mode de vie n'est pas à vendre, mon rap n'est pas à vendre. Ce que je pense ou dis n'est pas à vendre.
Si tu crois que ça va changer,
tu peux attendre. Mon mode de vie n'est pas à vendre, mon rap n'est pas à vendre. Ce que je pense ou dis n'est pas à vendre.
Si tu crois que ça va changer,
tu peux attendre. Ah, mon mode de vie n'est pas à vendre. Intraitables, les incorruptibles, les redoutables. Oh, prends ça dans ta gueule.
sur les ondes de CKIFM 88,3. On vous écoutait ainsi Squatel, Hélène derrière le micro, et je vous fais une très brève capsule sur la 9e journée internationale de lutte à la violence faite aux travailleuses du sexe qui avait lieu le 17 décembre. Des actions un peu partout, à Toronto, à Vancouver, en France. On vous parle de ce qui s'est passé à Montréal. Donc, cette journée-là, comme elle dit, est organisée par les travailleuses du sexe et vise à dénoncer la violence dont elles sont victimes et à réclamer la décriminalisation de la prostitution. Débat fort chaud, mais ici l'idée évidemment n'est pas d'entrer dans ce débat, mais d'y aller de manière factuelle. Donc, les travailleuses du sexe, une cinquantaine, ont occupé brièvement... Hey, on dirait que je parle comme à Radio-Canada, là. Wow! Des travailleuses du sexe ont occupé un coin de rue de la Red Light de Montréal, donc le 17 décembre au matin. Elles étaient habillées en rouge, munies de parapluies rouges également, en majorité des femmes. Et donc, l'idée, évidemment, c'était de dénoncer la violence que subissent les prostituées. Il y a Anna-Louise Crago, travailleuse du sexe et coordonnatrice de Stella, qui a dit en entrevue, en fait, les endroits de travail les plus sécuritaires pour nous, c'est à l'intérieur, où il va y avoir un personnel de sécurité, etc. Donc, pour elle, c'est vraiment la manière de réduire la répression, ou en tout cas la violence dont les travailleurs du sexe peuvent être victimes. On rappelle qu'au Canada, la prostitution est techniquement légale, mais qui est interdit, évidemment, de tenir une maison close, de faire la publicité des services de prostitution et de vivre des revenus de ce métier. Selon les données de Stella, chaque année à Montréal, en moyenne, il y a de 50 à 60 travailleurs du sexe qui sont victimes de violences. Puis évidemment, ben on devine déjà que, comme c'est le cas de toute façon dans les cas de violence, ben c'est pas toutes les femmes. En fait, majoritairement, les victimes vont pas porter plainte. Donc, on peut déjà penser que ces chiffres-là sont très, très conservateurs. Puis, relatait entre autres lors de cette manifestation-là que très récemment, il y a une prostituée qui marchait dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve qui a été interpellée par un homme qui a demandé l'heure et 2 secondes ensuite, ben, elle avait un couteau sous la gorge, l'homme l'a violée et l'a laissée inconsciente dans la ruelle. Donc, évidemment, ben, on est en droit de supposer que ces femmes-là sont plus à risque de se faire violenter, puisque les personnes vont se dire, ben regarde, c'est juste une pute, anyway, ça se viole pas une pute, hein?
Puis comme on a vu dans la région de Vancouver et puis à d'autres endroits dans le monde, les disparitions de travailleuses du sexe sont souvent complètement ignorées par la police pendant des années jusqu'à ce qu'il y ait une mobilisation puis que les chiffres soient absolument impossibles à ignorer.
Exactement. Puis d'ailleurs, on parlait justement que, selon Stella, le nombre de meurtres de prostituées a augmenté au Canada depuis l'arrestation en 2002 du tueur en série Robert Picton. Entre 2001 et 2005, SACI Canada a recensé 43 meurtres de travailleuses du sexe, puis ces données ne sont depuis plus comptabilisées par l'agence fédérale. Puis au Québec, en fait, on parlait de 15 meurtres depuis 2001. Donc, quand même vraiment à vomir. Puis d'ailleurs, c'est drôle, mais étrangement, la Journée nationale d'action coïncidait avec le fait que la police a confirmé que des restes humains qui ont été trouvés sur les côtes de Long Island à New York appartiennent à Shannon Gilbert, qui est une prostituée du New Jersey qui était portée disparue depuis mai 2010. Donc, voilà. Pour ce bref topo, on aura l'occasion d'y revenir sur la 9e journée d'action internationale de la lutte à la violence faite aux travailleuses du sexe.
Et puis, pour finir sur une note un petit peu plus positive, il n'y a pas énormément d'événements militants qui s'en viennent cette semaine. Il faut croire que tout le monde est en fin de session. Je sais pas, en préparation. Non,
c'est la fin de l'année.
Des fêtes de fin d'année.
Tout le monde achète des cadeaux.
Mm-hmm. Ben non, j'ai meilleur espoir.
Ou les concoctes, vu qu'on est anti-consommation.
Oui, ce serait bien.
C'est ça, les cadeaux DIY qui se fabriquent dans les chaumières.
Allez visiter Équiterre.
Donc, pour terminer l'année en beauté, il y a entre autres deux parties qui se préparent. Tout d'abord, encore un party bénéfice de GLBT Québec, un groupe comme on en a parlé déjà
à
cet automne.
À de nombreuses reprises.
Mais donc, ils font un nouveau party bénéfice, un party de filles du 31 décembre. Ça a lieu au Studio P, qui est dans le quartier Saint-Roch, tout près de Sécaillat.
Ah, l'année passée, c'était en Beauce.
Oh, Ben, c'est probablement avec l'objectif de rassembler plus de gens. Donc, à partir de 20h le 31 décembre, au Studio P. Puis, pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser à... Ben, vous pouvez consulter le site web de GLBT Québec ou les contacter par téléphone ou par courriel. Puis, les billets sont en vente à 15$ à la Duchesse d'Aiguillon, coin d'Aiguillon-Sainte-Marie dans Saint-Jean-Baptiste, ou au Salon de coiffure Code, coin Charest et Caron. Et puis, l'autre proposition qu'on vous fait, le nouvel an de la JT, donc qui aura lieu, comme on peut l'imaginer, le jour du 31 décembre à la JT. Et puis, où on nous offre la possibilité de venir cuisiner ou d'apporter des plats partagés. Donc ça commence à 17h. Il y aura aussi de la bouffe servie plus tard, de nombreux artistes qui sont sur la liste. Donc Rigali le
magicien, encore
Zéphyr Artéry Full Band, le buffet de minuit, ça je crois pas que ça soit un artiste, mais quand même DJ Maz Selecta et plus encore. C'est gratuit à partir de 17h.
En fait, pour le buffet à minuit, c'est que cette année, c'est une nouveauté. À la JT, il va y avoir deux services, donc ouais, vers 5h et à minuit également pour les gens qui seront en trip bouffe.
Ça va être parfait, ça.
Ça fait pas mal le tour de notre émission aujourd'hui. On était très contentes d'être avec vous.
Oui.
Restez à l'écoute de CKFM 88,3 si immédiatement.
Puissance maximale. Puis nous, on revient l'année prochaine pour revenir en force.
Pour abolir l'État, le patriarcat et toute autre forme de discrimination. À bientôt!
En attendant, on va écouter, on va jogger à Tombouctou avec Zap Mama.
Paintings on the tomb, they do the sun dance, don't you know? If they move too quick, they're falling down like a domino. All the bazaar men buy them now, they got the money on a bet. Go crocodiles, they snap their teeth on your cigarette. For a tax with a hookah fox, say back. Life is hard, you know.
Oh, oh, oh.
So strike a pose on a Cadillac. If you want to find all the cops, they're hanging out in the donut shop. They sing and dance.
Oh, oh, oh.
They swing their batons down the block. All the cops in the donut shop say, hey, oh. Egyptian.